Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 83, Daf Pe Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Nous sommes Daf Pe Gimel à Amoud Aleph, première ligne. Nous avons vu dans le jour précédent que Rabbi Yochanan nous dit que Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Nechemia ont la même opinion. C'est-à-dire que s'il y a eu un problème avec les propriétaires d'un sacrifice, après que le sang ait été jeté sur l'autel, d'après les deux, le sacrifice sera brûlé immédiatement, dans le cas où bien sûr ce sacrifice est devenu invalide, et on n'attendra pas le lendemain pour le brûler. Rabba Mosif, Rabba rajoute à ces deux Tanaïm, et Rabbi Yossi Aglili, c'est-à-dire que Rabba pense que Rabbi Yossi Aglili a lui aussi cette opinion. D'Etania, car nous avons enseigné dans une boîte. Hein. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, Kol Ainyan Kulo, tout ce sujet-là, et nous parlons du sujet qui est enseigné dans le sixième chapitre de Vaikra, et qui nous dit que tout sacrifice expiatoire dont le sang sera jeté, le verset nous dit dont le sang est amené à l'intérieur, ce sacrifice sera brûlé. Et il y a une discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan de quel sacrifice expiatoire nous parlons. Alors, Rabbi Yossi Aglili nous dit que tout ce sujet-là, est nommé d'aber et la beparim anistrafim ou beseirim anistrafim, nous parle ou des taureaux qui sont brûlés ou des boucs qui sont brûlés, c'est-à-dire les sacrifices expiatoires de l'assemblée et qui sont entièrement brûlés. Et ce verset vient nous dire l'istrof psuléen abet abira. Il vient nous dire que si ces sacrifices sont devenus invalides pour une raison quelconque, on devra les brûler dans le temple. Veliten lotaser l'achilatan, et ça vient nous dire qu'il y a un commandement négatif qui nous interdit de les manger. Amroulo, alors les sages lui ont dit, chatat shenichnas dama lifnai velifnim minaim. Alors, si c'est ainsi que le verset nous parle des sacrifices expiatoires de l'assemblée qui d'habitude sont brûlés, et ça vient nous dire que s'ils sont invalides, il faut aussi les brûler, alors d'où je sais que l'expiatoire, le sacrifice expiatoire d'un particulier, dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Saint des Saints, d'où je sais qu'un tel sacrifice, lui aussi, est invalide et doit être brûlé. Car eux, les sages, c'est ce qu'ils apprennent de ce verset-là. Et donc, si Rabbi Yossi Aglili n'utilise pas le verset pour apprendre cet enseignement, d'où l'apprend-il? Marlem, alors Rabbi Yossi Aglili leur a dit, je l'apprends de ce verset. « En lo huva et dama el kodesh pnima. » Pourtant, son sang n'a pas été amené à l'intérieur du saint, c'est-à-dire à propos du sacrifice expiatoire de Aaron. Lorsque Moshe a demandé à Aaron où est passé le sacrifice, Aaron lui a dit il a été brûlé. Alors Moshe lui a dit pourtant son sang n'a pas été amené à l'intérieur du saint. Et de là nous apprenons deux choses. Michlal, de là j'apprends. Deinafiki, que si le sacrifice expiatoire était sorti à l'extérieur des limites du tabernacle. Inami, ou alors, Aïl Dama, que son sang de ce sacrifice expiatoire a été rentré à l'intérieur du saint. Alors en effet, Besrefa, c'est en effet, il aurait dû être brûlé. Et Moshe a dit à Aaron que pourtant, ces choses-là ne sont pas arrivées, donc pourquoi l'avez-vous brûlé? Or, le sacrifice d'Aaron, c'était le sacrifice expiatoire d'un particulier. Et nous voyons donc que si on fait rentrer le sang d'un sacrifice expiatoire d'un particulier à l'intérieur du saint, alors en effet, le sacrifice doit être brûlé. Donc Rabbi Yossi Aglili l'apprend d'ici. Et nous voyons de là que l'opinion de Rabbi Yossi Aglili est que non seulement dans un cas pareil le sacrifice est brûlé, mais il est brûlé comme ce qui s'est passé avec Aaron, c'est-à-dire il est brûlé immédiatement et on ne lui fait pas passer la nuit avant de le brûler. Et donc nous voyons que l'opinion de Rabbi Yossi Aglili est que lorsqu'il y a un problème avec le sang, le sacrifice est brûlé immédiatement et on ne lui fait pas passer la nuit avant de le brûler. Et donc la Gemara, en tout cas Rabba pense que de même que lorsqu'il y a un problème avec le sang, on le brûle immédiatement, de même que lorsqu'il y a un problème avec le propriétaire, on le brûle immédiatement. Et donc ça suit l'opinion de Reb Nechemia et Reb Yochanan ben Beroka qui disent que lorsqu'il y a un problème avec le propriétaire, le sacrifice est brûlé immédiatement. On la Gemara demande, vers Reb Yochanan, pourquoi Reb Yochanan insiste ainsi? Lui n'a pas pris en compte aussi ce troisième Tana, Reb Yossi Aglili, qui dit qu'il est aussi d'accord avec cette opinion. Alors Reb Yochanan, la Gemara répond, lui, il pense, Dame ou bassar, khadam iltaï, que la viande et le sang, c'est une chose. C'est-à-dire que c'est très possible que s'il y a un problème avec le sang ou la viande, le sacrifice est brûlé immédiatement. Ba'alim iltaï, et les propriétaires, c'est autre chose. Et c'est très possible que donc Rabbi Yossi Haglili pense que s'il y a un problème avec le sang, le sacrifice est brûlé immédiatement. S'il y a un problème avec les propriétaires, on devra attendre le lendemain pour brûler le sacrifice. On devra d'abord lui faire passer la nuit. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan n'a pas amené de preuve de Rabbi Yossi Haglili à l'opinion de Rabbi Nechemia et Rabbi Yochanan Beroka, qui eux ont parlé explicitement dans un cas où il y a eu un problème avec le propriétaire, que le sacrifice est brûlé immédiatement. La Mishnah nous dit, Ha'atzamot, les os du sacrifice de Pessah, Ve'agidin, et les nerfs, les tendons, Ve'anotar, et ce qu'il en reste au matin, Issarfou, ce sera brûlé, Be'shisha Asa, le 16 Nissan. C'est-à-dire, on ne les brûlera pas le matin du 15 Nissan, qui est jour de fête, mais on les brûlera le 16 Nissan, les jours de demi-fête. Chal Tetzain Yod Be'Shabbat, si le 16 Nissan est tombé un Shabbat, Issarfou Be'Yudzain, alors on les brûlera le 17 Nissan. Les fiches et un dochin, car le fait de les brûler ne repousse pas, lo et à Shabbat, velo et Yom Tov, ni le Shabbat, ni le jour de fête. Et donc on attendra le jour de demi-fête pour brûler les os, les tendons et ce qui reste du sacrifice de Pessah. La Gemara nous dit, Amar Rav Mari Baravo, Amar Rav Yitzhak. Rav Mari Baravo a dit au nom de Rav Yitzhak, Atzamot Kochim, les os d'un sacrifice, Sheshimshu, notar, qui ont rendu service à du notar, c'est de la viande d'un sacrifice qui reste après le délai où celui-ci est permis à la consommation. Donc, si les os ont rendu service à cette viande-là, metamim et ayadaim, alors ces os rendent impures les mains, de même que le notar rend impures les mains, hoil veneessa basis le davar asur, puisque c'est devenu une base, un support à quelque chose d'interdit, car ces os ont rendu service à cette viande de notar. Donc en fait, ces os sont un support, ils viennent aider et supporter quelque chose qui est interdit, et donc ils sont considérés comme la chose interdite en elle-même. Et nous continuons, Bezrat Hashem, le shiur de Daaf Pegimel. Nous venons donc de voir que la Gemara nous a dit que les os qui ont servi de support à de la viande de notar prennent eux aussi le statut de notar. La Gemara demande, Neima Mesayale, allons-nous dire que la Mishnah suivante, ça vient renforcer cet enseignement. Ha'atzamot ve'agidim ve'anotar. Les os et les nerfs et le reste de viande du sacrifice de Pessah, Yesarfou les Tetzain seront brûlés le 16 Nissan. Maintenant, la Gemara demande, Hane atzamot echidame. Ces os, de quel cas parlons-nous? Il ima delet be'umoar. Si nous parlons d'un cas où ces os n'ont pas de moelle à l'intérieur, et donc, ils sont entièrement vides, ce n'est que des œufs, que des os. Lama besrefa, pourquoi avons-nous besoin de les brûler? Nijdinu, il est suffisant de les jeter. Car la loi qui nous dit qu'il faut brûler, c'est seulement le notar, ce qui reste du sacrifice de Pessah. Or, on a le statut de notar que la viande, quelque chose qui est consommable et que l'on n'a pas consommé et que l'on en a laissé, alors ça, ça fait qu'on en a laissé, il faut le brûler. Mais si c'est quelque chose qui n'était pas consommable, alors ça s'appelle pas qu'on en a laissé. Donc ça s'appelle pas qu'on en a laissé, on n'a pas besoin de le brûler. Donc les os qui ne sont pas consommables, ils n'ont pas le statut de notar. Et donc maintenant, si ces os n'ont pas de moelle à l'intérieur, pourquoi avons-nous besoin de les brûler? Il est suffisant de les jeter. Et la pshita, donc c'est évident, deit beomor, qu'il y a de la moelle à l'intérieur de ces os. Et donc la moelle, c'est comme de la viande, puisque c'est consommable. Et donc, s'il reste de la moelle, cette moelle a le statut de notar. Maintenant, « I amad bish lama shimush notar miltai » Alors, je peux comprendre si tu me dis que le fait de faire support à du notar peut faire acquérir le statut aussi de notar. Donc, c'est pour cela que « Amtulachi » c'est pour cela que « Ba'er sefa » ces os ont besoin d'être brûlés. Car étant donné qu'ils ont servi de support à cette moelle, et donc, et cette moelle elle-même est notar. Donc les os aussi ont le statut de notar. Et là, il y a mat shimush notar la mitai. Mais si tu me dis que faire service au notar, faire support au notar, ce n'est pas considéré comme étant quelque chose et ça ne peut pas faire acquérir le statut de notar. Lama leusrefa. Alors pourquoi avons-nous besoin de brûler ces os? C'est vrai qu'ils ont servi à la moelle qui elle-même est notar. Mais étant donné que ça ne leur fait pas acquérir le statut de notar, ils n'ont pas besoin d'être brûlés. Nidberinu. Alors il serait suffisant de casser ces os, venar letza, et d'en faire sortir la moelle, didou, la leur, venisrefe, et de brûler cette moelle, venijdin ou les didou, et de jeter les os. Pourquoi avons-nous besoin de brûler les os? Et il faut ici préciser que c'est vrai qu'il y a une loi qui nous dit que l'on n'a pas le droit de casser les os du sacrifice de Pessah, mais cette loi ne s'applique que lorsque l'on a le droit de manger le sacrifice de Pessah. Après que l'on a le moment où on a le droit de le manger, étant donné que le sacrifice est inapte à la consommation, donc il n'y a plus d'interdit d'en casser les os. Et donc, elle a la shmamina. Donc de cette Mishnah, n'est-ce pas que ça sous-entend, Shimush notar miltai, que le fait d'être un support à du notar est considéré comme étant quelque chose qui fait acquérir aussi le statut de notar, et c'est pour cela que ses os seront brûlés. Amré, alors ils ont répondu, lo, non. Leolam imalar, je peux toujours te dire, shimush notar, lav milta. Que faire support, être support à du notar, ce n'est pas quelque chose qui te peut faire acquérir le statut de notar. Et alors si c'est ainsi, pourquoi avons-nous besoin de brûler les os? Il est suffisant de les casser, d'en faire sortir la moelle, de brûler la moelle et de jeter les os. Et bien, alors, l'Agma nous dit, vekasavarbo, car ce Tana, il pense que lorsqu'il est écrit, etem lotishberubo, et vous n'en casserez pas les os, alors, bekacher, vafilo bepasoul, ça vient nous dire que l'on n'a pas le droit d'en casser les os, et lorsque le sacrifice est valide, et lorsqu'il est invalide. Et donc, même après le délai où on a le droit de manger le sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'en casser les os. Et donc, puisqu'on n'a pas le droit d'en casser les os, comment faire sortir la moelle? Et donc, puisqu'on n'a pas de possibilité d'en faire sortir la moelle, c'est pour cela qu'on devra brûler les os aussi. Afilo bepasoul, alors, Agma demande, afilo bepasoul, sakadatar. Peux-tu penser une chose pareille, que même lorsque le sacrifice est invalide, on n'a pas le droit d'en casser les os? Vatnan, pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, Aval amotir betahor. Mais celui qui laisse du sacrifice de Pessah après le délai où celui-ci est permis à la consommation, lorsque le sacrifice de Pessah est tahor et pur. Alors c'est vrai qu'il transgresse un interdit, mais comme nous allons le voir, il n'est pas passible de peine de flagellation, car c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Donc c'est pour cela qu'il est exempt de peine de flagellation. Et de même, Vachover betame, celui qui casse un des os du sacrifice de Pessah lorsque celui-ci est impur, et no sofeg et arbaim, n'est pas passible d'une peine de flagellation. Donc nous voyons qu'il n'y a pas d'interdit de casser les os du sacrifice de Pessah lorsque celui-ci est impur. Et donc comment avons-nous pu dire que ce Tana pense que même lorsque le sacrifice est invalide, il est interdit d'en casser les os? Pourtant, lorsque la viande est impure, il n'y a pas plus invalide que ça. Et malgré tout, nous voyons qu'il est permis d'en casser les os. Donc, comment avons-nous pu dire plus haut que il est permis d'en casser les os? Alors, la Gemara répond, lo kasher, ce n'est pas une question. Kancha et aloshata kosher, kancha lo et aloshata kosher. Ici, nous parlons d'un cas où la viande, à un moment, était apte à la consommation. Et donc, à ce moment-là, si après elle devient inapte à la consommation, par exemple, dans un cas où le délai est passé, alors à ce moment-là, en effet, il sera interdit d'en casser les os, car étant donné qu'à un certain moment, il a déjà été interdit d'en casser les os lorsqu'elle a été apte à la consommation. Alors même après, lorsqu'elle devient inapte à la consommation, il est interdit d'en casser les os. Et là, nous parlons dans un cas où cette viande n'a jamais été apte à la consommation. Et dans un cas pareil, étant donné que le sacrifice est invalide, il est permis d'en casser les os. « Umantana de chanele ben shaita lo shata kosher lelo aita lo shata kosher » Et quel est le Tana qui fait une différence entre le cas où la viande a été apte à la consommation et le cas où la viande n'a pas été apte à la consommation? Rabbi Yaakov, c'est l'opinion de Rabbi Yaakov, de Tanya, que nous avons enseigné dans une baïta. « Ve'etzem lotish berubo » Et un os, vous n'en casserez pas. C'est-à-dire que même un os, on n'a pas le droit d'en casser dans le sacrifice de Pessah. Et de là, j'apprends « bo » dans celui-ci, dans le sacrifice de Pessah. « Bekacher velo bepasu » Seulement dans celui-ci qui est valide, et pas dans celui-là qui est invalide. Et donc de là, nous apprenons qu'il est permis de casser un os du sacrifice de Pessah lorsque celui-ci est invalide. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, « Haïta lo shata koser venivsal » Si ce sacrifice a été valide à un certain moment et après il est devenu invalide, « Yesh bo mishum shurat etem » Alors dans un cas pareil, il sera interdit d'en casser les os, même si maintenant il est invalide. « Lo haïta lo shata koser » Mais si ce sacrifice n'a jamais été valide, comme par exemple dans le cas où la viande est devenue impure avant que le sang n'ait été jeté sur l'autel. En bo mishum shvirat etzem, il n'y a pas d'interdit d'en casser les os. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, echadze vechadze, que ce soit celui-ci ou que ce soit celui-là, en bo mishum shvirat etzem, il n'y a pas d'interdit d'en casser les os. Mais de toute façon, nous voyons que l'opinion de Rabbi Yaakov et de faire une différence entre le cas où le sacrifice a été valide à un certain moment, c'est-à-dire que la viande a été apte à la consommation, et le cas où la viande n'a jamais été apte à la consommation. Et donc, dans notre Mishnah, nous parlons d'un cas où la viande a été apte à la consommation, et donc c'est pour cela que l'on n'a pas le droit d'en casser les os pour en faire sortir la moelle, et c'est pour cela que l'on devra faire brûler les os avec la moelle. La Gemara demande maintenant, Meitive, kol atzamot akodashim. Nous avons eu dans une braïta. Tous les os des sacrifices, enteonim srefa, n'ont pas besoin d'être brûlés. Chutz me'atzamot ha-pesach, à part les os du sacrifice de Pesach, mipnei atakala. Car l'on craint que si on ne les brûle pas, on va en venir à les casser pour en faire sortir la moelle et faire brûler la moelle. Alors, la Gemara demande maintenant, hanei atzamot, ces os-là, heridame, de quel cas parlons-nous? Il y m'a délai de beumoar. Si nous parlons d'un cas où il n'y a pas de moelle à l'intérieur de ces os, la malou sefa. Alors pourquoi avons-nous besoin de les brûler? Même ceux du sacrifice de Pessah, il n'y a pas besoin de les brûler. Et la pchita, déout beumoar. Et là, donc, c'est évident que il y a de la moelle à l'intérieur de ces os. Et maintenant, vei salkada atarchimush notar mildai. Or, si tu penses que rendre service à de la viande notar est considéré comme quelque chose et fait acquérir le statut aussi de notar, alors atzmot kodashi mamai enteonim srefa. Pourquoi les os des os sacrifices n'ont pas besoin d'être brûlés, étant donné que ces os ont servi à la moelle qui elle-même est devenue notar, de même donc que la moelle est motar, les os aussi ont le statut de notar et donc les os aussi devront être brûlés. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, alors Rav Nachman bar Yitzchak a dit, Acha bema askinan, ici de quel cas parlons-nous? Kegon shemetzahan chalutzin. Nous parlons d'un cas où il a trouvé ses os lorsqu'ils étaient déjà cassés et vidés de leur moelle. Alors, atzamot kodoshim den baim mishum shvirat etzem. Et donc c'est pour cela que, à propos des os de tous les autres sacrifices, qu'il n'y a pas d'interdit de les casser. Alors, kamedine avonotar chalutzinu. Alors on dit que ces os ont été cassés et vidés de leur moelle avant que ce soit devenu notar. Et donc ces os, velo avur shimush notar, et ces os n'ont pas servi à la moelle qui est devenue notar, ils ont servi à la moelle, mais avant qu'elle ne devienne notar. Mais lorsqu'elle a eu le statut de notar, on avait déjà vidé les os de leur moelle. Donc les os n'ont pas servi à du notar, et donc puisqu'ils n'ont pas servi à du notar, ils n'ont pas le statut de notar. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas brûlés. Velo ba'o sefa, et donc on n'a pas besoin de les brûler. Par contre, atzamot de Pessah, par contre, les os du sacrifice de Pessah, de yesh ba'im mishvihum shviratetem, étant donné qu'il y a un interdit de casser ces os-là, alors il faut dire que si maintenant on les a trouvés cassés, les batar de niavu notar ou de chaltinu, c'est après qu'ils soient devenus notar que ces os ont été cassés et vidés de leur moelle. Et donc, ve'avu le'u shimush notar, et donc ces os ont servi au notar, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont été vidés après que la moelle ait acquis le statut de notar, donc en fait, ils ont servi la moelle lorsqu'elle a acquis ce statut de notar. Donc, ils ont servi à quelque chose de notar. Donc, eux aussi, ils prennent le statut de notar. Et donc, puisqu'ils ont le statut de notar, au bas, c'est pour cela qu'on a besoin de les brûler. Ça, c'est la première explication. Rav Zida Amar, Rav Zida dit, Acha bema eskinan, ici, de quel cas parlons-nous? Kegon, comme dans un cas.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf pe gimel amud bet. Shemetzahan tseburin tseburin. Nous parlons d'un cas où il a trouvé un tas d'os. Ou mehen chalutin. Et les os qui se trouvent en haut sont cassés et vidés de leur moelle. Alors maintenant on dit comme ça, atzamot kodashim dehen bayim mishum shvirat ha'etzem, à propos des os de tous les autres sacrifices, étant donné qu'il n'y a pas d'interdit de casser ces os, on dit les kulo avechalitzehu ve'achileu, que tous les os ont été cassés, vidés de leur moelle, et que la moelle a été consommée, velo ba'esrefa, et on n'a pas besoin de brûler tout le tas d'os, mais on dit de même que ceux d'en haut sont cassés et vidés de leur moelle, ceux d'en bas aussi sont cassés et vidés de leur moelle. Par contre, atzamot ha-pesach, les os du sacrifice de Pessah, deyesh ba'en mishum shvirat etzem, étant donné qu'il y a un interdit d'en casser les os, dilma hane de chaltinu, ou lanar lo chaltinu, on va dire que peut-être ceux d'en haut ont été cassés et vidés de leur moelle, mais ceux d'en bas, on n'a pas transgressé l'interdit, et donc ils n'ont pas été cassés et vidés de leur moelle, et donc il reste de la moelle à l'intérieur des os, et donc la moelle a le statut de srefa, on ba'e srefa, et donc on devra brûler les os avec la moelle, car on n'a pas le droit de casser l'os pour en faire sortir la moelle. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une différence entre les os de tous les autres sacrifices et les os du sacrifice de Pessah. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Kol Agidin Basar. Tous les nerfs, les tendons, sont considérés comme étant de la viande, car ils sont tendres. Chutz Migidei Tzavar, à part les tendons du cou, car eux, ils sont très durs, et puisqu'ils sont très durs, alors c'est comme des os. Alors maintenant, l'Agman nous dit, va amener une preuve. Non, nous avons enseigné dans notre Mishnah. Ha'atzamot ve'agidim ve'anotar. Les os, et les nerfs, et les tendons, et ce qui reste du sacrifice après le délai, on a le droit de le manger. Issafou, tout sera brûlé, betet zain, le 16 Nissan. Alors maintenant, l'Agman demande, ha'negidin echidame. Ces tendons qui ont été mentionnés dans la Mishnah qui sont brûlés, de quel cas parlons-nous? Il imagide basar, si nous parlons des tendons qui sont de la viande, qui sont tendres comme de la viande, nechlinenu, on n'a qu'à les manger. Pourquoi avons-nous besoin de les brûler? Veide tota, et si tu veux me dire qu'on a voulu les manger, mais que il n'y avait personne pour les manger, et donc c'est resté. Ainu nota, alors ça rentre dans la catégorie de nota, ce qui est resté après le délai, où on a le droit de manger le sacrifice de Pessah. Donc pourquoi avons-nous besoin de le dire explicitement dans la Mishnah? Et la pshita, alors c'est évident qu'ici nous parlons de guidé tzavar, des tendons du cou, et qui ne peuvent pas être mangés, et puisqu'ils ne peuvent pas être mangés, ils devront être brûlés. Maintenant, iamad bishlama basaninu, alors si, je peux comprendre si tu me dis que les tendons du cou, bien qu'ils sont durs, ils sont considérés comme étant de la viande, c'est pour cela qu'on devra les brûler. Et là, iamad la basaninu, mais si tu me dis que ce n'est pas de la viande, lama le usrefa, pourquoi avons-nous besoin de les brûler? Car le statut de notar, ce n'est que sur quelque chose qui est consommable. Quelque chose qui est consommable et qui n'a pas été consommé, alors après le délai où on a le droit de le manger, prend le statut de notar. Mais si nous disons que les tendons du cou sont considérés comme étant des os, donc ils ne sont pas consommables. Donc s'ils ne sont pas consommables, après le délai, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le statut de notar. S'ils n'ont pas le statut de notar, ils n'ont pas besoin d'être brûlés. Alors, non. Ici, nous ne parlons pas des tendons du cou, mais nous parlons du nerf sciatique. Valiba de Rabbi Yehuda, et suivant l'opinion de Rabbi Yehuda, d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda nous dit, Enonoeg et la Be'achat, il y a deux nerfs dans la hanche de la bête, il y a deux nerfs, un à droite et un à gauche. Et Rabbi Yehuda a dit que l'interdit du nerf sciatique ne s'applique qu'à un seul de ces deux nerfs, mais on ne sait pas c'est lequel. Ve'adat machat shel yemin. Et il est plus logique de penser que c'est celui de droite. C'est-à-dire que le nerf sciatique, l'interdit du nerf sciatique, c'est sur le nerf du côté droit. Et c'est vrai que c'est plus logique, mais ce n'est pas sûr. Et donc Rabbi Yehuda a un doute. Est-ce que c'est celui de droite ou celui de gauche? Et donc en fait, si c'est ainsi, il y en a un qui est mangeable et un qui est interdit à la consommation. Mais étant donné qu'on ne sait pas c'est lequel qui est mangeable et lequel qui est interdit à la consommation, on dit que les deux sont interdits à la consommation. Et donc dans la Mishnah, lorsque nous parlons des guidin, des nerfs, nous parlons de ce nerf-là. C'est-à-dire que étant donné que l'interdit de consommer les deux nerfs sciatiques des deux côtés, c'est à cause du doute, car il y en a un qui est permis à la consommation et l'autre qui est interdit à la consommation. Donc automatiquement, dans ces deux nerfs sciatiques, il y en a un qui est interdit à la consommation à cause du nerf sciatique et l'autre qui est interdit à la consommation à cause du doute, car on ne le sait pas. Et celui qui est interdit à la consommation à cause du doute, en fait, normalement, il aurait dû être consommable. Seulement, nous, on ne sait pas c'est lequel qui est consommable. Puisque c'est ainsi, ça s'appelle qu'il est apte à être consommé et qu'on ne l'a pas consommé durant le délai. Donc après le délai où le sacrifice de Pessah est permis à la consommation, alors il acquiert le statut de notar, car on ne l'a pas consommé. Mais ce statut-là, c'est sûr qu'il va l'acquérir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que peut-être quelqu'un va venir le manger, car c'est sûr qu'il va l'acquérir, car il est interdit à la consommation à cause du doute. Et donc c'est pour ça que nous l'avons mentionné à part le statut de notar qui est mentionné dans la Mishnah, nous parlons du nerf sciatique, qui lui aussi, c'est sûr qu'il va acquérir le statut de notaire, et qui en fait est interdit à la consommation à cause du doute. Maintenant, la Gemara demande si c'est ainsi. Ve'el atifshot des sipukeh, mais ça, quel est le Rabbi Yehuda? Nous pouvons décider de voir d'ici, trancher, que Rabbi Yehuda a un doute à propos du nerf sciatique. Car, dans la Gemara de Chulin, il y a un doute. Est-ce que Rabbi Yehuda, lorsqu'il a dit, il est plus logique que ce soit celui de droite, est-ce que Rabbi Yehuda vient nous dire que c'est clair que c'est celui de droite, ou Rabbi Yehuda vient nous dire c'est plus logique que c'est celui de droite, mais ça reste un doute? Pourquoi? Alors maintenant, comment pouvons-nous trancher d'ici que pour Rabbi Yehuda c'est un doute? Dei mifshat pshit ale, Car si pour Rabbi Yehuda ça avait été sûr que le nerf, l'interdit du nerf sciatique s'applique sur le nerf de droite, alors Aïde Etera, Nihle, on n'a qu'à manger le nerf sciatique de gauche qui est permis à la consommation, Vedei Sora Nishdeye, et celui de droite qui est interdit à la consommation, on le laisse. La Malesrefa, pourquoi avons-nous besoin de le brûler? Il n'a pas le statut de notaire, puisque depuis le début il était interdit à la consommation. Et donc si nous voulons expliquer dans la Mishnah que le nerf sciatique est brûlé, c'est seulement parce qu'il y a un doute. Est-ce qu'il est interdit à cause du nerf sciatique ou à cause du nota? Et donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda a un doute. Alors Rabbi Kabar Chinen a dit, non. Ici, nous pouvons toujours dire qu'en fait, d'après Rabbi Yehuda, pour lui c'est clair que l'interdit, c'est le nerf sciatique de droite. Et Kegon, Cheukeru. Et donc, on l'a prélevé et on a vu, il a été reconnu que celui-là, c'est l'interdit et l'autre, c'est le permis. Mais après cela, les deux nerfs sciatiques se sont mélangés. Et on ne sait plus maintenant c'est lequel qui est interdit, lequel qui est permis. Et donc, étant donné qu'il y a un doute, alors on interdit les deux nerfs sciatiques. Mais en fait, d'après la vérité, les deux ne sont pas interdits par la Torah, donc automatiquement il y en a un qui va acquérir le statut de nota, et c'est pour cela que ils devront être brûlés. Rav Ashi a dit, « Lo nitzricha ela leshmano shel gid anashe » que nous ne parlons pas ici du vrai nerf sciatique, mais nous parlons de la graisse qui entoure le nerf sciatique. Des Tanya, car nous avons enseigné dans une boîte. Shmano mutar, la graisse qui entoure le nerf sciatique est permise à la consommation. Ve Yisrael doshimem, mais les Bnei Israël sont saints. Ve noagim bo isurm, et ont pris l'habitude sur eux de ne pas la consommer. Et donc la Mishnah nous parle de cette graisse-là. Et donc c'est vrai que normalement cette graisse est permise à la consommation, mais étant donné que les Bnei Israël ont pris l'habitude de ne pas la consommer, alors depuis le début, on sait déjà très bien que depuis le moment qu'on abat le sacrifice de Pessah, cette graisse ne va pas être consommée. Mais étant donné qu'elle est permise à la consommation par la Torah, alors ça fait acquérir à cette graisse le statut de notar, et c'est pour ça qu'elle sera brûlée. Ravina nous dit, Bechitson. Nous parlons ici du nerf extérieur, ou que des Rabbi Yehuda Amar Shmuel, et comme l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Comment cela? D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, car Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel. Shte Gidin En. Il y a sur la hanche deux nerfs. Pnimi Asamuch Laetem. Celui qui est vers l'intérieur et qui est proche de l'os. Alors celui-là, Asso, il est interdit par la Torah. Vechayavim Alab, et celui qui le consomme est passible d'une peine de flagellation, car il a transgressé l'interdit de la Torah. Chitson, par contre, celui qui est du côté extérieur, Asamuch Lebassar, proche de la viande, de la chair, Asour, c'est vrai que celui-là est aussi interdit à la consommation d'ordre rabbinique, Ve'en Chayavim Alab, et on n'est pas passible de peine de flagellation si on l'a consommé. Et donc, Ravina nous dit maintenant que lorsque dans la Mishnah nous avons dit que le nerf, le guide, devrait être brûlé, nous ne parlons pas du nerf sciatique, mais nous parlons du nerf extérieur, qui est permis par la Torah, mais a été interdit d'ordre rabbinique. Et donc, puisqu'il est permis par la Torah et n'est interdit que d'ordre rabbinique, il acquiert automatiquement le statut de notar après le délai où le sacrifice de Pessah est permis à la consommation. Car d'après la Torah, ce nerf est permis à la consommation. Maintenant, on ne l'a pas consommé, donc il acquiert le statut de notar. Et donc, c'est pour cela qu'il sera brûlé. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Chel Tetzain, si le 16 Nissan est tombé un Shabbat, alors on repoussait le fait de brûler le sacrifice de Pessah de ce qui en restait au 17 Nissan. Car le fait de brûler le reste du sacrifice de Pessah ne repousse ni le Shabbat, ni les jours de fête. Alors la Gemara demande, Vehamai, pour quelle raison cela ne repousse pas? Nite Ese, que vienne ici le commandement positif de brûler ce qui reste du sacrifice de Pessah. Et repousse le commandement négatif de que l'on n'a pas le droit d'allumer du feu durant Shabbat et un jour de fête. Amar Chizkia, alors Chizkia a dit Vechendane de Bereb Chizkia, et ainsi on l'a enseigné dans la maison d'études de Reb Chizkia. Amar Kra, car le verset a dit Loto tiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, Veanota mimenu ad boker, et ce qui en reste jusqu'au matin, Baesh tisrofu, dans le feu vous le brûlerez. Alors la Gemara pose une question, Shem Talmud Lomar ad boker. On n'a pas besoin de répéter une nouvelle fois et ce qui en reste jusqu'au matin. On sait très bien ce qui en reste, c'est automatiquement ce qui est resté jusqu'au matin. Matalmud lomar ad boker. Pour quelle raison alors la Torah a-t-elle besoin de répéter, de dire ce qui en reste jusqu'au matin? L'itenlo boker sheni. Ça vient nous dire qu'ici, nous parlons du second matin. C'est-à-dire, il est interdit de laisser de la viande au premier matin qui suit le jour où on a abattu le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, au 15 au matin déjà, on n'a pas le droit de laisser de viande. mais le brûlerai au second matin, c'est-à-dire au matin du 16 Nissan, les Sréfato pour le brûler. Et donc de là, nous apprenons que l'on n'a pas le droit de brûler le sacrifice de Pessah, un jour de fête. Et donc la plus forte raison qu'on n'a pas le droit de le brûler le jour de Shabbat. Abaye Amar, Abaye a dit, Amarka, car le verset a dit, Olat Shabbat beShabbato. Le verset nous a dit qu'il est permis d'offrir l'holocauste de Shabbat durant Shabbat. Et de là, nous apprenons, Olat Chol beShabbat, que l'on n'a pas le droit de brûler un sacrifice qui a été fait un jour de profane durant Shabbat. Olat Chol beYom Tov. Et on n'a pas le droit de brûler un sacrifice holocauste qui a été fait un jour profane pendant un jour de fête. Et donc, automatiquement, on n'a pas le droit de brûler le sacrifice de Pessah qui a été offert la veille lorsque c'était encore un jour profane, durant le jour de fête. Rava Amar, Rava a dit, nous l'apprenons dans notre verset. Amar, car le verset a dit, Hu levado ya'ase lachem. Et nous parlons qu'un jour de fête, dans le verset, il est dit qu'on n'a le droit de faire aucun travail, sauf ce que l'on a besoin pour manger. Seulement, alors il est dit, Hu levado ya'ase lachem. Seulement ceci, vous aurez le droit de le faire. Et de là, nous apprenons, où celui-là, c'est-à-dire ce que l'on a besoin pour manger, velo marchirav, et pas les choses que l'on a besoin pour manger, mais que l'on aurait pu faire depuis la veille. C'est-à-dire qu'il est dit qu'un jour de fête, on a le droit de transgresser, en quelque sorte ça s'appelle transgresser, mais ça ne s'appelle pas transgresser puisque c'est permis, on a par exemple le droit d'allumer du feu et de cuisiner, parce que c'est pour manger. Mais si on ne pouvait faire cette chose-là la veille, il sera interdit de faire des travaux, même si c'est pour manger. Ce que l'on a le droit, c'est seulement ce que l'on a le droit, ce que l'on a besoin le jour de fête. Ce qui aurait pu être fait la veille, on n'a pas le droit de le faire durant le jour de fête. Levado, seulement lui, qu'est-ce que nous apprenons là?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.